vendredi 15 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, une semaine sans Grand Prix, donc la nouvelle formule de cette année. Je recevrai des invités pour discuter du championnat en cours ou en entrevue. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité sera le pilote québécois de Sainte-Thérèse, Québec, Jean-Christophe Tran. Mais pour débuter, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friend Sim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, vous savez, quand on parle de controverses entourant un championnat du monde, on a souvent en tête celui de 2021 concernant le premier de Max Verstappen. Mais il ne faut pas oublier aussi que le premier de Lewis Hamilton en 2008 avait fait l'objet d'une controverse et c'est Felipe Massa, cette semaine, qui s'en est chargé de nous le rappeler en déposant une poursuite envers la Formule 1, envers la FIA, ainsi que Bernie Ecclestone pour une somme de 80 millions de dollars. Felipe Massa estime que c'est des dommages et intérêts, c'est de l'argent qu'il aurait pu faire si on l'avait consacré champion. Pour vous remettre un peu en situation, là, on sait que ça date quand même d'assez longtemps, il ne fait pas référence à la dernière course qui avait été aussi controversée un peu avec Timo Glock qui avait eu une sortie de piste. Ça avait permis à Lewis Hamilton d'inscrire le nombre de points suffisant pour dépasser Felipe Massa au classement final de la saison 2008, mais c'est plutôt à la course de Singapour quand que Nelson Piquet Jr. avait reçu l'indication de son équipe Renault de prendre le mur, carrément de mettre sa monoplace dans le mur afin de provoquer l'arrêt de la course, donc avoir une voiture de sécurité, ce qui avait servi à son coéquipier de l'époque, Fernando Alonso. Felipe Massa menait l'épreuve à ce moment-là, donc il a perdu ces points-là. Finalement, ce qu'on a su un an plus tard, c'est qu'il avait bel et bien fait exprès Nelson Piquet. Ça a été avoué, il y a eu des suspensions envers Renault et tout ça. Ce qui a ramené l'histoire dans l'actualité, c'est que Bernie Ecclestone, 92 ans, aurait eu une entrevue dans les derniers mois et aurait mentionné que lui et Max Mosley, président de la FIA à l'époque, étaient au courant, même pendant la saison, qu'il avait eu ce stratagème-là déloyal de la part de Renault. Donc à ce moment-là, ce que Felipe Massa implore, c'est qu'on aurait dû prendre les procédures nécessaires afin de pénaliser immédiatement Renault, ce qui aurait donné les points à Felipe Massa, ce qui lui aurait permis d'être consacré champion à la fin de la saison. Donc, le Brésilien Massa, lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est qu'il ne veut pas ravoir son titre de champion. Lui, il veut juste ravoir parce que il fait le calcul avec ses avocats que s'il avait été consacré champion, ben, depuis toutes ces années, ben, tous ces contrats qu'il aurait re-signés après auraient eu des plus grandes valeurs, des plus grandes sommes monétaires. On aussi, en ce moment-là, quand on est champion du monde, mais partout, quand on s'est présenté, on dit Felipe Massa, champion du monde 2008. Donc, toute cet argent-là là, qu'il estime avoir perdu, soit en contrat, en commandite, en conférence qu'il aurait pu donner, bien, il rapporte que ce serait en dommages et intérêts 80 millions de dollars. Le problème avec ça, c'est que je comprends la cause, je comprends que Felipe Massa a probablement perdu de l'argent, puis toute cette situation-là, qu'il ne veut pas le championnat, tout ça, je comprends ça. Le seul point que j'ai un doute que ça va fonctionner, c'est le fait que, pour l'instant, sa preuve, à moins qu'il en ait d'autres, c'est une référence envers un homme de 92 ans qui a mentionné quelque chose et qui s'est empressé de dire que je me rappelle plus avoir dit ça. Donc, en cours, quand il va présenter ça, je ne suis pas avocat, mais j'ose croire que l'avocat de la défense pourrait implorer là, plein de... Normalement, il pourrait dire, ben, mon client a 92 ans, il ne se rappelle plus avoir dit ça, il prend des médicaments forts, il y aurait plein de sortes de défenses envers ça, donc j'espère que Felipe Massa a d'autres preuves plus solides s'il espère soutirer cette somme faramineuse d'argent à l'endroit de la Formule 1, de la FIA et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, ça va être à suivre, ça va être un dossier à suivre et ça va faire couler de l'encre et ça pourrait aussi avoir des répercussions sur le championnat justement de 2021. Est-ce que Lewis Hamilton pourrait être tenté plus tard de dire « Ah, moi aussi, j'ai perdu de l'argent à cause d'une décision, donc j'aimerais être payé si j'étais 8 fois champion du monde, mes salaires seraient plus gros, mes commanditaires. » Donc, est-ce que ça pourrait être tentant pour le Britannique aussi de suivre les pas de Felipe Massa? Et on parle dans d'autres championnats aussi où il y aurait eu des mauvaises décisions. Là, on peut voir à la boxe, au hockey. C'est pas la première fois là, qu'il y a des décisions qui sont, on peut dire mauvaises ou on peut dire douteuses, mais c'est ça qui arrive quand on laisse un sport être jugé ou on a des arbitres là, à ce moment-là. C'est ce qui est arrivé en 2021. On a eu quelqu'un qui était en charge de prendre une décision. Il n'a pas pris la décision en faveur populaire, mais ça reste que c'est un sport qui est décidé par des êtres humains. Donc, ça peut toujours arriver. Pour du côté de Massa, ben, on se dit si du côté de Bernie Ecclestone, on est au courant, ben, on aurait dû intervenir et à ce moment-là, ça aurait changé ça aurait changé l'impact de la vie de Philippe Masson, ainsi de suite. Donc, ça va être un dossier à suivre au cours des, je vais dire aux prochains mois, même prochaines années, parce que c'est un dossier qui va se régler à Londres, puis normalement, des dossiers comme ça, c'est complexe, ça peut être assez long, donc ça peut prendre plusieurs années. Je suis pas sûr que Bernie Ecclestone va être là pour voir la fin de ce dossier-là, ou même en témoigner. Ensuite, autre nouvelle, c'est du côté du clan Mercedes. Eh bien, on perd un autre personnage clé de l'entourage de l'écurie allemande qui va nous quitter pour la brigade italienne, c'est-à-dire la Scuderia Ferrari. Et c'est Jérôme D'Ambrosio qui était le directeur du développement des pilotes depuis quelques années. Il avait succédé un peu, c'était un rôle que Toto Wolff remplissait. On avait nommé Jérôme D'Ambrosio. C'était aussi celui que, pour ceux qui se rappellent, c'est lui qui avait remplacé Toto Wolff aussi lorsqu'il s'était fait opérer au genou la saison dernière. Donc, c'était Jérôme D'Ambrosio qui était en charge de l'équipe, qui était directeur. Donc, c'est une personne en qui M. Wolff avait énormément confiance et on était pour le nommer en charge à sa place quand il n'est pas là. Donc, lui, il quitte. Il s'en va rejoindre Lewis Hamilton, qui va être chez Ferrari aussi. Donc, est-ce que c'est le premier? Non, c'est pas le premier, on le sait. Lewis Hamilton a déjà quitté. Mais j'imagine que ce sera pas le dernier non plus à quitter pour l'équipe rouge. Autre dossier intéressant, eh bien, c'est Lando Norris qui se plaignait après le Grand Prix en Arabie Saoudite concernant les ondulations du circuit, là, concernant que les nouvelles voitures avec les effets de sol, on se rappelle, il y a eu l'effet de marsouinage, mais maintenant, on peut plus vraiment dire que c'est plus un phénomène qui est aussi grand, mais les voitures ont pas, même si ça n'a pas la même ampleur, les voitures oscillent beaucoup. Donc, à ce moment-là, les pilotes reçoivent énormément de coups. Donc, Lando Norris voulait se pencher. Il dit, moi, je suis pas docteur, mais j'aimerais ça qu'on vérifie c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur nos santé pour plus tard. Il soulignait aussi le point du fait que Carlos Sainz a eu une crise d'appendicite et qu'on avait eu Alex Albon la saison précédente. Donc, à ce moment-là, c'est deux en deux ans qui se retrouvent avec ce problème de santé-là. Est-ce qu'il pourrait avoir un lien entre ça et la vibration à bord des voitures? Donc, Lando Norris, comme il dit, je ne suis pas docteur, mais j'aimerais ça qu'on se penche sur la cause, qu'on analyse un peu du fait que ça arrive, qu'on a de plus en plus des mal de dos, on a des mal dans le bas, dans le haut des jambes, tout ça, dans le bassin. Donc, à ce moment-là, puis de voir si ça n'a pas des impacts aussi sur des organes, ou si ça peut provoquer des problèmes de santé, comme Carlos Sainz au Grand Prix de la semaine dernière, ou Alex Albon la saison précédente. Et en terminant, ben, on ne pouvait pas vous mentionner finir l'actualité sans parler de Christian Horner et de la nouvelle télé-réalité Red Bull to Survive. Eh bien, dimanche, il y a eu une nouvelle concernant c'est un média allemand encore, c'est encore eux, bien sûr, c'est eux qui sortent le plus de nouvelles concernant le dossier, si on peut vraiment dire des nouvelles. Eh bien, il mentionnait que Christian Horner allait perdre son emploi. On vous en parlait, là, dimanche, qu'on disait qu'il n'y avait pas vraiment rien de fondé à travers de ça et qu'il fallait attendre. Et comme de fait, eh bien, lundi, dans la journée, il y a un porte-parole de Red Bull qui s'est empressé de sortir pour démentir la nouvelle, dit que c'était absolument faux, que c'était un fake news, qu'il n'y avait absolument rien qui justifiait de renvoyer Christian Horner avant le Grand Prix d'Australie, qu'il avait toujours pleinement la confiance des deux propriétaires de l'entreprise et qu'on n'avait pas l'intention du tout de le renvoyer, donc il restera dans ses fonctions, il sera présent au Grand Prix d'Australie. C'est sûr que c'est toujours une situation qui peut évoluer d'heure en heure et de jour en jour, mais pour l'instant, le fait qu'on s'est empressé de sortir, de démentir la nouvelle, eh bien, on n'a aucune raison croire qu'on aurait fait ça si on avait l'intention de le renvoyer. Il faut faire un peu attention. Hein. Je sais que c'est la nouvelle ère qu'on vit avec les réseaux sociaux. On a des pages qui se spécialisent sur dans la mésinformation, de partager des informations d'un peu partout, que ce soit véridique ou pas. On se casse pas la tête pour vérifier si c'est fondé. On devient un transmetteur de rumeurs juste parce qu'un média allemand le dit. On tout d'un coup, c'est une crédibilité. On n'a pas besoin justement de vérifier nos sources ou de vérifier l'exactitude de ce qu'on veut partager. On fait juste dire, ah, un média allemand a dit ça, donc c'est une nouvelle. Donc, je sais que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de lire ou ce que vous voulez, mais de faire attention quand même quand on lit ce genre d'informations-là. Du côté de F1 Podcast, parfois, vous allez voir qu'on partage pas une nouvelle ou qu'on n'en parle pas. C'est qu'on n'a aucune façon de s'assurer qu'il y a un fond de vérité avec ça. Même quand vous écoutez les épisodes, vous êtes sûrement familier. Lorsque je vais émettre une opinion, ben, je vais faire attention de vous dire que c'est seulement mon opinion et non une nouvelle. Et la même chose lorsqu'on va publier des nouvelles, justement, sur notre page Facebook, sur Instagram, sur Twitter, on va toujours s'assurer de vous emmener la nouvelle la plus exacte possible. Sinon, ben vous allez avoir la mention comme quoi c'est une rumeur, c'est des rapports ou quoi que ce soit. On ne va jamais mentionner que c'est nécessairement une nouvelle. C'est pas parce que quelqu'un d'allemand décide de se lever un matin et de mentionner que quelqu'un va perdre son emploi que c'est nécessairement véridique. Et c'est ce qui conclut l'actualité pour aujourd'hui. Maintenant, passons à notre entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt la semaine dernière avec le pilote d'ici, Jean-Christophe Tran.
Aujourd'hui à l'émission, j'ai le bonheur de recevoir le champion 2022 de la série américaine F2000 et plus récemment celui qui a triomphé à Montréal en F1600 lors du Grand Prix du Canada, Jean-Christophe Tran. Bienvenue au F1 Podcast.
Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un grand plaisir, vraiment très plaisant de pouvoir commencer à parler de cette passion et de tout ça avec quelqu'un qui connaît ça.
Ah, ben good, good, le bonheur pour nous autres. Puis je suis sûr que ça va être le bonheur des auditeurs d'apprendre à te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Parlant de ça, justement, apprendre à te découvrir, si tu veux te présenter un peu, savoir, on sait que maintenant, j'ai déjà fait la présentation, que tu es un courseur automobile, que tu as eu des accomplissements déjà dans ta jeune carrière, mais de où ça a commencé, ça, de savoir la naissance de tout ça, là.
Moi, j'ai grandi dans le milieu automobile, bien évidemment, avec de la parenté, surtout mon père, qui était très impliqué dans la course automobile au Québec. Mon père était le chef instructeur de la province au Québec pour avoir l'obtention de licence. Il avait son école de pilotage, il avait sa shop de tuning, il avait aussi son équipe de course, évidemment. Donc, moi, c'était mon gros terrain de jeu quand j'étais jeune. Cependant, mon père n'a jamais voulu que je fasse partie de la course, juste parce que c'est trop un gros stress financier et mon père voulait que j'explore d'autres avenues avant que ça paraisse comme s'il me forçait trop, comme tous les autres papas de course, à ce que je fasse du kart. Donc, j'ai jamais fait de kart, mais j'ai toujours eu cet amour-là de la course
Donc,
depuis.
il voulait que ça soit vraiment une passion en toi, que ça vienne naturellement et non lui qui te l'impose. Il voulait vraiment que ça vienne de toi, que tu fasses la demande de dire, moi, ça me tente, je veux faire ça de la course automobile, si je comprends bien.
Ouais, ben, il savait que tôt ou tard, peut-être, ça allait arriver. Fait qu'il est vraiment tout fait pour pas que ça arrive, même à ça. Même à ça. C'est vraiment partie de mon développement personnel, de manière que j'ai appris à comment me développer, comment grandir comme enfant, jeune enfant. Ça a vraiment fait partie de mes belles années de développement juvénile. Donc, quand j'ai retrouvé un peu plus tard la conduite, je me suis réintéressé à la course dans ma jeune adolescence. Plus tard, après ça, j'ai serré la manche un petit peu, puis j'ai dit, j'aimerais ça peut-être en faire un peu, voir si j'aime ça. Puis même à ça, il était comme, si t'es pas bon, on arrête ça, direct là. On tue ça dans l'œuf, ça va être mort dans l'œuf, on fait pas, on va pas perdre de temps et d'argent pour voir si tu vas devenir bon. Donc, si t'es pas bon du début, on arrête ça tout de suite. Heureusement, mon père n'est pas quelqu'un de facilement impressionnable. Je l'ai à mon académie de Formule 2000, Jim Russell, à Tremblant, en 2018. À Gage, j'ai bien fait de passer pour impressionner le chef instructeur Philippe Letourneau, qui est maintenant mon employeur, et mon père pour, comment dire, avoir ma licence et commencer à courser l'année juste après en Formule 500, en 2019.
Donc, c'est ça. Fait que là, dès tes premiers élans en voiture, là, il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à faire. Comme tu dis, tu es allé à l'Académie de Jim Russell, donc il t'a pas payé, c'est pas n'importe quoi non plus. Il t'a vraiment envoyé à la bonne école pour commencer. Là, pour les gens qui sont pas familiers avec l'Académie de Jim Russell, tous les plus grands qui sortent du Québec et même d'ailleurs, je peux dire qu'au Canada, c'est vraiment la référence de passer par l'école de Jim Russell. Donc, toi, tu es allé là pour faire tes premiers pas, puis en même temps convaincre ton père que tu avais ce qu'il faut pour continuer dans ce domaine-là.
Ouais, convaincre, je le sais pas. Moi, j'avais une drôle d'assurance par rapport à ça. Je savais que j'allais être bon, peu importe. Je sais pas d'où cette assurance-là venait, mais je l'avais en dedans de moi.
Mais je
Mon père
parle
l'avait.
pas, convaincre toi nécessairement, je parle plus ton père. Dans le fond, de
Oh,
montrer à ton
exact,
père,
c'est ça.
c'est ça que toi, tu t'étais fait pour ça. Puis là, tu arrives à ta première course. Comment ça s'est déroulé? Là, tu as eu la première fois que tu as vraiment fait une compétition, pas nécessairement juste à l'école, parce qu'à l'école, tu me dis que ça a bien été l'instructeur, M. Letourneau, a trouvé que c'était bon. Mais après ça, tu es arrivé et tu as eu une première course. Et comment ça s'est déroulé ce moment-là, à peu près?
Ma première course, il y avait trois courses dans le week-end de Formule 500 à Tremblant en 2019. La première course, c'est une course très pluvieuse. Je l'ai mis dans le bac à gravier au tour 5, 6 environ. Quand je voulais dans le top 5, j'ai vraiment penché après moi. Mais la course directement après, le lendemain, j'ai recommencé un petit peu plus loin, justement à cause de cet incident-là. Mais j'ai rattrapé. Bertrand Gonnet, qui était très loin, lui, il avait parti dans le top 3. Moi, j'avais parti comme 7, 8, peut-être même plus loin. Puis là, j'étais plus rapide que lui. Je l'ai rattrapé, je l'ai dépassé. Puis là, j'ai une batteur avec lui, une super belle batteur jusqu'à la fin de la course. Fait que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux à comme, OK, si je m'applique dans ce domaine-là, puis je commence à faire des bonnes décisions pour ce qui a trait à comment gérer ma carrière, je pense que je vais pouvoir m'en tirer peut-être un petit peu et avoir quelque chose au moins similaire une belle carrière comme Bertrand Godin, qui est maintenant au temps de la renommée, puis je le voyais vraiment en admiration. Puis là, c'est comme j'avais battu un de mes héros, j'étais comme, ouais, je sais pas, là, je dirais pas le débattu. Ça a été on a fini la course côte à côte.
Non, ben, tu
Puis je
étais en
pense que.
mesure de compétitionner contre lui. Déjà, ça, on s'entend que c'est déjà une belle preuve qu'il y a un talent à quelque part, de dire qu'un gars qui a cette expérience-là, qui est rendu à ce niveau-là dans sa carrière, toi, tu commences, tu as eu aussi des mésaventures, tu réussis à reprendre confiance, puis aller le rechercher à ce moment-là. Donc, je peux comprendre dans quelle situation ça vient un peu te donner l'approbation de ton propre talent, de dire, il y a peut-être de quoi à faire.
Oui, exact. C'est vraiment exact. C'est exactement ça. C'est de me dire, ben, peu importe ce qui arrive, moi, je sais que je ne perdrai pas mon temps si je continue à investir dans moi, investir dans développer mes atouts, raffiner mes atouts, mettre du temps à trouver des partenaires, des commanditaires ou des gens avec qui je peux bâtir des relations qui peuvent perdurer jusqu'à une carrière professionnelle. C'était vraiment ça, au moins, ça m'a vraiment rassuré là-dessus. Ça a été vraiment une belle course, mais un beau week-end pour ça. Contrairement au week-end d'après, parce que là, j'ai eu un très, très gros accident au Grand Prix de Montréal. Ça a mis ma carrière vraiment sur la glace, là. C'était un gros accident. J'avais pas, moi, ma famille n'avait pas vraiment d'argent pour payer un accident de cette magnitude-là. Fait que ça a un peu mis cette fin de saison-là et en plus que le COVID était l'année d'après. Vraiment, ça a été un bout avant que j'envoie
La piste.
une piste de course de l'intérieur
Ouais.
d'une voiture de course, là.
Parlons-en de cet accident-là. Tu m'emmènes ça, là, justement. Ça, c'est en 2020. Si je retrace bien avec l'historique avec la COVID, tout ça qui a frappé plus en 2000, ça a frappé plus fort en 2021 ou c'est en 2019 que tu as vécu ça, cet accident-là?
Oui, le gros accident, c'était le mois d'après au Grand Prix de Montréal en 2019. Fait mettons, si on met la saison sur la glace, on est arrivé en 2020 après. Mars 2020 arrive, mettons, même situation qu'en ce moment, on prépare une saison, tout, boum! Confinement, tout le kit. Donc, en 2019, c'est ça, sur le Grand Prix de Montréal, je roulais bien quand même, j'avais une bonne qualif, puis là, j'ai fait un move un peu opportuniste sur un retardateur. Et j'ai volé par-dessus le retardateur au coin 5. J'ai arrivé dans le mur à 170 environ. J'ai complètement déplacé l'auto. Ça a vraiment été une grosse réalisation pour moi. C'était vraiment, c'était comme. Ça m'a fait réaliser que, tu sais, là, j'en ai voulu trop. J'ai voulu trop prouver qu'est-ce que j'avais. Et ça n'a pas été payant. Donc, mais après ça m'a fait réaliser que si je finis des courses, peu importe les courses que je finis, moi, je finis bien.
Mais quand on
Sans
parle,
très bien.
ouais, excuse-moi, mais que tu parles de cet accident-là, est-ce que c'est vraiment, on parle de plus de dommages matériels ou il y a aussi des dommages psychologiques puis physiques par rapport à cet accident-là que tu as eu?
Aucun dommage physique. Je suis ressorti de ça indemne. On regarde la vidéo, on ne comprend pas pourquoi j'ai pas eu de dommage physique. On dirait que j'étais comme protégé par un ange gardien. Si j'ai une roue qui a explosé dans ma face, ma roue avant gauche quand j'ai frappé le mur, qui est arrivée à peut-être un pouce de mon visage, j'ai rien eu. Dommage psychologique, par exemple, ça certainement, il y en a eu, mais les lésions ont cicatrisé en des genres de force maintenant. Je suis vraiment je suis conscient que cet accident-là m'amener à être le pilote que je suis aujourd'hui, qui a maintenant beaucoup de choses que je peux être fier d'avoir accompli, moi et ma famille, ensemble. Donc, mais à l'époque, c'était très, très, très difficile de
Oui.
devenir d'un milieu, tu sais, pas nanti plus que ça, tu sais, vraiment classe moyenne. Puis là, mettre une dette de X montant sur la tête de mes parents, ça m'a vraiment fait du mal, en plus d'avoir mis sur la glace ma carrière. Par une action vraiment trop opportuniste et un peu juste d'une expérience parce que j'ai jamais fait de karting. Fait que moi, ces affaires-là, je les ai apprises à la dure un petit peu, mais honnêtement, ça a été une meilleure école que si j'avais fait dépenser peut-être plus d'argent à mes parents en karting. Fait que c'est
Ouais,
vraiment
non,
du.
je comprends. Puis là, dans le fond, tu sais, ce qui n'est pas facile non plus, c'est qu'on conseille souvent, un peu comme quand un enfant tombe à vélo ou qu'on a un grave accident, on dit tu remontes sur ton vélo le plus vite possible pour réapprendre. Mais là, toi, en plus, tu es victime de cet accident-là, puis tu peux pas piloter avant la fin de la pandémie quasiment, ou tu t'es limité pendant ce temps-là sur ton temps en piste. Fait que c'est pas évident parce que ça revient dans ta tête, puis ça tourne. Fait que de surmonter ça, mais ça donne beaucoup de crédit aussi d'avoir réussi à surmonter ça parce que c'est pas évident.
Non, totalement, totalement. Je ne sais pas comment vraiment. Je dirais, mes parents m'ont vraiment aidé là-dedans à me garder centré puis à me faire rappeler, tu sais, qu'est-ce que j'étais capable de faire puis me garder sur la bonne voie surtout.
Ouais, la bonne voie. Garder focus sur l'objectif et non sur ce qui vient d'arriver, de voir plus loin, là. Tu me parles aussi de. Tu sais, on parle que tu as commencé tout de suite dans des séries de monoplace, dans le fond, la F1600. Pour les gens là, qui ne sont pas un peu familiers avec ça, parce que pour nous au Québec, ce qu'on voit souvent, c'est quand on achète des billets, on s'en va au Grand Prix du Canada, ben c'est une des séries qui est là entre les événements qui sont reliés à la Formule 1. Donc, pour les gens là, justement qui ne sont pas familiers avec ce type de voiture-là ou qui les ont déjà vues, mais qui ne comprennent pas nécessairement c'est quoi, est-ce que tu peux expliquer un peu la différence entre la F1600, la F2000 dans laquelle tu es champion aux États-Unis, de savoir c'est quoi, là, comment ça fonctionne ces voitures-là?
Ben oui, certainement. Dans le fond, le F est juste pour une catégorie de voitures. Donc, c'est les formules, évidemment, qu'on reconnaît très facilement visuellement. 1600, 2000, 3000, comme à l'époque, c'est juste pour la grosseur du moteur, dans le fond. Donc, 1600, c'est 1600 cc. C'est un moteur de 1,6 litres. Nous, en Amérique du Nord, on utilise des moteurs prédominamment Honda ou Kent. Fait que, ce que ça veut dire, surtout, c'est des voitures aussi qui sont sans appui aérodynamique. Donc, surtout dans des séries de développement, ça nous permet vraiment de travailler nos atouts sans aide aérodynamique. Donc, on est vraiment, tout est au pilote, tout est à la finesse de pilotage, à comment raffiner son pilotage et ses techniques pour pouvoir extraire le plus de temps possible d'une voiture qui peut aller rapidement, certainement, vu qu'elle est très légère, mais qui est pas un démon de vitesse, là. On peut quand même atteindre des bonnes vitesses, mais ce n'est pas une voiture qui a une grosse réaccélération ou qui va extrêmement vite dans les virages. C'est juste une voiture de momentum qui prend beaucoup de finesse de la conduire et c'est des voitures connues à travers le monde. On en a en Australie, on en a en Europe, on en a en Angleterre. En Angleterre, il y a le Festival de Formule Ford, dont plusieurs champions de Formule 1 ont dû gagner pour pouvoir passer à la prochaine étape et être au niveau où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils étaient éventuellement. Et au Canada, on a notre plus grosse course, qui est techniquement la plus grosse course de Formule Ford au monde, qui est la course de support au Grand Prix de Montréal. Il n'y a aucune course de Formule Ford qui est comme ça. C'est extrêmement unique en son genre et ce qui la rend extrêmement spéciale à gagner, que je peux témoigner vraiment, là, c'est un autre feeling totalement d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui sont levées sur leurs pieds et qui t'applaudissent. Donc, c'est un peu ça la Formule Ford. C'est vraiment un bon départ puis c'est une bonne.
C'est vraiment, comme tu dis, c'est un apprentissage vers la monoplace, mais aussi c'est une formule de développement, puis c'est une formule de sensation, dans le fond. C'est pour vous, les pilotes, de sentir une voiture, puis de vraiment avoir le plus de contrôle dessus, comme tu dis, sans l'aérodynamisme, de vraiment comprendre comment une voiture fonctionne sur la piste, comment la contrôler. Puis là, tu m'as amené à mon autre question que je voulais te poser. Tu me parles de justement le moment à Montréal que c'est la plus grosse course pour vous en Formule Ford. Puis je veux savoir, c'est quoi le feeling, là, la première fois que tu as su que tu allais piloter sur le circuit Gilles Villeneuve, comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que tu étais nerveux ou pour toi, c'était une course comme une autre?
Ah, ça aurait pu être une course comme un autre, mais j'ai tellement eu, comment dire, je la mettais tellement haute dans mon estime comme course que c'était vraiment pas une course comme un autre. Il n'y a pas une course pareille nulle part dans le monde. Il n'y a aucune course de support de Formule Ford qui supporte la F1 nulle part dans le monde. C'est extrêmement unique en son genre et c'est une tradition ici au Québec depuis maintenant plus de 50 ans. Donc, pour moi, beaucoup de pilotes que j'admire et que je connais et qui ont des carrières phénoménales, donc j'aimerais miroiter et imiter, l'ont gagné. Fait que là, moi, pour moi, c'était comme un but en tant que tel. J'avais passé une étape si je pouvais gagner cette course-là. Donc, la première fois que je l'ai faite en 2019, c'était mon deuxième week-end de course à vie, encore une fois, sans expérience de karting. C'est une des rares courses dans ma vie où j'étais extrêmement nerveux. Ça a donné ce que ça a donné. J'ai eu deux incidents. J'ai rarement des incidents dans la course. J'ai eu deux incidents dans un week-end. Le dernier fatal, comme on a discuté. Donc, je l'ai fait trois fois le Grand Prix de Montréal. Ça, c'est la première fois. La deuxième, j'ai eu probablement, je dirais, sauf drôlement l'année d'après cette année où est-ce que j'ai gagné le Grand Prix, l'année d'avant en 2022, quand j'étais en Formule 2000 aussi, j'avais fait comme un one-off à Montréal parce que je voulais le refaire encore une fois pour essayer de la gagner. J'avais eu une qualif exécrable. La voiture avait problème de transmission. J'ai à peine fait un tour juste pour tituber au puits. Je suis parti très loin. J'ai remonté dans la pluie torrentielle. Tout le monde roulait sur le bœuf, comme on dit. Donc, vraiment, juste pour ne pas causer d'incident. Puis moi, j'ai remonté le peloton. Puis ça a été probablement une meilleure course à vie. C'est pas la meilleure. 16 à 3. 16e position à 3e position en 3 tours. Avec le tour le plus rapide pour me donner la pole position pour le lendemain.
Quand
Encore une
même.
fois, avec une voiture qui ne marchait absolument pas.
Non, c'est ça. Puis là, on arrive à 2023 où tu deux pole positions, deux tours le plus rapide, trois podiums sur toutes les épreuves, puis en plus, tu finis par être consacré champion. De gagner devant chez toi, devant tes partisans, devant les gens du Québec, sur le circuit Gilles-Villeneuve. Puis là, ça m'amène à mon autre question qui dit, c'est bien beau de piloter sur le circuit Gilles-Villeneuve, n'importe qui prendrait cette occasion-là, mais de gagner puis monter sur la plus haute marche du podium, là, j'imagine que ça, et tu sais, on va en venir un peu, tu as un titre de champion aussi de la catégorie, tu as gagné le championnat en 2022, mais de remporter l'épreuve 2023 à Montréal, ça se trouve où dans ta carrière, ça, comme accomplissement?
C'est un drôle d'accomplissement. C'est comme tu dis, même toi, tu as comme l'impression tellement que c'est une course, en anglais, on dit un momentous event, que tu as comme, t'es quasiment le titre de champion viendrait avec. Moi, personnellement, c'est presque comme, c'était aussi extasique que gagner un championnat.
Ouais.
T'sais, sur un événement, j'ai senti comme je me suis senti sur six événements quand j'ai couru à la Formule 2000 et j'ai gagné un championnat là.
C'est
Mais
ça.
sur un événement, juste parce que j'étais à la maison, j'étais à la fête des pères, mon père était dans les puits, ma femme était dans les puits.
Wow.
J'ai gagné la course par la plus petite marge de l'histoire de la piste, toutes catégories confondues, qui était 6 millièmes de seconde.
Un photo finish.
Exact. Photo
Ouais.
finish, c'était assez magique. Puis là, mettons, si on calcule 15-20% des gens qui étaient là, plus les gens en attendance générale, mettons 30-40 000 personnes. J'y repense encore, là. Je regardais toutes les estrades, là. Il n'y avait pas une personne assise. Tout le monde était debout et applaudissant. Les gens savaient que c'était le petit gars du coin, tu sais, je viens de Montréal, je viens de la Rive-Nord. Et ça, c'était comme un. Moi, je suis quelqu'un d'assez émotionnel. J'étais assez proche de mes émotions. Fait que moi, je pleurais, j'avais la misère à les voir. Je voulais tous les remercier, tout donner un bisou, mais je n'étais pas prêt à les voir, j'avais les yeux pleins d'eau. Fait que. C'était vraiment beau. J'avais même des amis des États-Unis qui m'avaient visité, qui étaient dans une estrade, là. J'ai fait un beau bisou lui aussi. Mais c'était, comment dire, pour moi, c'était comme un passage dans ma carrière. C'était comme si je suis capable de faire ça, je peux aller à la prochaine étape. Puis,
Ouais.
je peux mourir en paix, sachant que j'ai gagné le Grand Prix de Montréal de cette manière-là.
Ah, ben certes, ben, on est encore longtemps à vivre, là, mais je peux comprendre ce que tu veux
Ouais,
dire. C'est
c'est
que.
pas mal ce que je veux dire, hein?
Ouais, non, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est que il y a des gens qui échangeraient des carrières pour être capable de vivre ce moment-là. Puis toi, tu dis, je suis dans mes débuts, puis là, je l'ai. Puis là, en plus, là, j'ai sauté par-dessus parce qu'on était sur ce sujet-là. Mais au moment où tu gagnes à Montréal, pour que les gens puissent comprendre, là, tu as déjà un titre de champion en poche de la saison précédente. Tu avais gagné en 2022. Donc, puis quand on parle de gagner le championnat, là, c'est, tu avais gagné 7 des 12 courses au championnat 2022 américain en F2000. Donc, fait que là, tu arrives à Montréal, tu gagnes le Grand Prix au Canada, puis pour toi, tu viens de dire que c'était un événement, tu avais l'impression que tu étais champion une deuxième fois un peu, là.
Un peu, où c'est presque ça, où vu que c'était pas un gros championnat, celui de Formule 2000, j'ai fait ce qui était comme accordément à mon budget. Même à ça, je n'en avais pas de budget. On a juste étiré le budget pour dire qu'il faut avoir de l'expérience puis essayer d'avoir des bons résultats entre-temps. Mais j'avais moi-même, j'essaie d'imaginer ce que les gens pouvaient dire. Ah, mais tu sais, c'est un petit championnat, il est peut-être pas si bon que ça. Puis moi, je me disais, regarde, si je suis allé gagner le Grand Prix de Montréal l'année d'après, là, je peux tout leur faire ma gueule.
C'est ça.
Désolé,
Ça va être l'approbation. Ouais.
mon langage cru, là, mais
Ouais.
pour dire comme moi, je vais être capable avec moi-même de dormir le soir, sachant que j'aurai plus rien d'autre à prouver de la saison précédente et de moi en général, si je vais faire ça, et d'après ça, aller à la prochaine étape.
Non, je
Fait
comprends ça. C'est quelque
que.
chose qui va traîner avec toi, là. Tu l'as, comme tu dis, tu l'as dans ton sac, tu l'as sur ton CV de dire, j'ai un championnat, peut-être que vous n'avez pas entendu parler, mais lors du gros moment à Montréal, pendant que les Formule 1 sont là, pendant que tous les amateurs de course automobile au Québec sont présents sur place normalement ou le regardent à la TV, mais moi, je suis là puis je gagne à cet événement-là. Puis tu sais, c'est très médiatisé, on sait, là, tu l'as dit, c'est l'événement qui est le plus médiatisé dans ce championnat-là aussi. Puis c'est pas, il n'y en a pas d'autres comme ça en Amérique. Donc, de le gagner. Puis là, tu m'emmènes aussi à dire, on te parlait un peu des budgets, puis que tu as fait avec ce que tu pouvais, vous avez étiré le budget, puis tout ça. On va parler des commanditaires. Je sais que c'est important dans le sport automobile, puis j'aimerais ça que tu aies la chance de les remercier, puis de nous dire c'est qui t'a soutenu depuis tout ce temps-là. Puis ça représente quoi les montants? Sans faire peur au monde, mais c'est quoi les montants que tu as besoin, puis c'est quoi l'aide que tu pourrais avoir, là? Qu'est-ce que tu rechercherais, là, s'il y a d'autres mondes, des gens qui sont à l'écoute, qui voudraient t'aider à continuer de faire rayonner le Québec sur la scène internationale, là, dans quelle situation un peu que tu trouves présentement dans ta carrière, là?
Les gens qui m'ont vraiment aidé dans ma carrière, en montant en 2019, je vais essayer de faire une petite liste en oublier.
Oui.
Miles Flood avec Link International MF Racing. Il m'a vu dans le premier tour de piste. et m'a supporté depuis. Un excellent monsieur qui aide aussi mes greniers, qui est très proche de mes greniers depuis longtemps et qui l'aide aussi lui aussi depuis ses débuts. Mick étant un pilote manufacturier Mercedes, qu'on contactait directement avec Mercedes. Moi, si je suis pas bon de carrière, je ferais exactement comme Mick. Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il lui fait. Sinon, marchand de bonheur, les mouleurs, l'âme japonaise d'exception. J'en ai beaucoup, là. J'en ai beaucoup. Del Corona et Scardiglé, mon commanditaire de l'année passée à Montréal. Monsieur Stéphane Roy, Monsieur John Annis, Monsieur Stéphane Raymond, Monsieur. J'en ai beaucoup, j'en ai
Ah,
beaucoup, j'en
c'est
ai
ça.
beaucoup.
Non, mais c'est bon. Déjà là, ça donne une idée de tout ça. Puis, comme je te dis, c'est montré aussi. Tu en as besoin de plus qu'un pour te rendre jusque-là. Puis encore là, tu es obligé d'étirer tes budgets le plus possible parce que tu ne peux pas rivaliser avec des gens. Tu m'as dit que, on s'est déjà parlé, nous deux, puis tu m'as déjà dit que par rapport à un budget que toi, tu avais X, mais il y en a des fois qui vont être contre toi puis qui vont avoir 4 fois le budget que tu peux avoir, 3 fois le budget que tu vas avoir que tu as facilement, là.
Avant que j'oublie,
Oui.
gestion luxe automotive avec
Parfait.
François Huard. Sinon, qui d'autre, qui d'autre? Évidemment, mon équipe de management avec Ramstar Racing. Okay. S'il y en a d'autres, je vais les redire
Non, c'est
au
correct.
même. J'avais pas exactement une liste faite pour ça, mais ça, c'est pas mal ceux qui étaient là depuis le début puis qui ont toujours eu m'ont toujours eu dans leur camp. Mais sinon, tu disais oui, dans le fond, pour les budgets, c'est dur à dire. Mettons pour un budget de Formule 2000 comme l'année passée, plutôt le 2 ans maintenant, ça a l'air de championnat un peu accessible. C'est comme un peu arrive et fais ce que tu veux sur ton auto. Mais si quelqu'un était pour louer les services à une équipe de course professionnelle pour opérer la voiture, tout en parlant toute une saison, on parle d'un budget de facilement 80 à 100 000 $ américains. Ça, c'est même pas un gros championnat. Si je voudrais, mettons, j'avais fait l'autre championnat de Formule 2000. Qui est homologué, c'est tous des jeunes qui sortent du karting avec beaucoup d'argent. Là, on parlerait plus de 300 000 $ à l'époque, américain.
Avant
Ça, c'est.
l'inflation, là.
Ouais, exact. Exact.
C'est ça.
C'est juste avant ça. Donc,
Puis ça, c'est pas
c'est.
pour faire peur aux commanditaires qui pourraient entendre ça, parce que toutes les petites sommes qui peuvent être versées vont t'aider à atteindre ton but pareil, là. Ça veut pas dire que tu as besoin. C'est sûr, si quelqu'un est capable de faire un chèque de 100 000 $, tu le refuseras pas, mais tu comprends aussi dans la réalité que tous les petits apports financiers peuvent t'aider à continuer à rayonner sur la scène internationale pareil.
Ah, totalement, totalement. C'est tout dans la mesure où est-ce que les gens sont prêts à donner, sont prêts à recevoir en retour ou sont prêts à perdre. Fait que ça peut être n'importe quel montant. Moi, je suis pas, évidemment, je suis pas hautain par rapport à ça. N'importe qui prend un intérêt dans qu'est-ce que je fais et qui est prêt à m'aider, je suis tout ouïe. Donc, ça, c'est vraiment ça le gros facteur déterminant de tout ça. Et en plus de ça, pour quelqu'un, tu sais, j'ai des programmes promotionnels. Avec mon équipe de management, que j'organisais juste des choses qui sont organisées en conséquence que quelqu'un qui s'est prêt à donner un montant avec un programme promotionnel et un programme marketing qui va avoir en retour plus, sinon au moins va break-even juste par bonne volonté. Donc, tant que ça c'est compris, tant que ça c'est communiqué, moi j'ai pas de doute qu'à la longue, je vais être capable de ramasser tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller au prochain niveau et éventuellement avoir un contrat professionnel où est-ce que là, moi, j'aurais plus besoin de faire le mendiant.
Non, puis en plus, c'est le
Ouais.
moment aussi que ça va devenir encore plus payant pour tes commanditaires, ceux qui t'ont supporté à ces moments-là, de dire d'avoir ton nom sur des compétitions plus d'envergure encore en ce moment-là, ben c'est une façon aussi de retrouver les montants qu'ils avaient investis en toi. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours continue, il faut qu'ils poursuivent dans l'aventure, mais c'est sûr que plus que toi, tu gagnes en popularité, ben plus que ces gens-là aussi, leur visibilité va augmenter par rapport à ça. Tu me parles aussi, là, c'est ça, on parle des championnats, on parle de ce que tu as accompli, ce que tu as déjà malgré ton jeune âge. Là, pour les gens qui ne savent pas, tu as 23 ans, tu vas avoir 24 ans. Tu es un petit gars de Sainte-Thérèse. C'est quoi tes objectifs, là? C'est quoi que tu as sur l'horaire cette année? Est-ce que tu as des choses sur y a-t-il quelque chose que tu veux accomplir encore, même si tu as gagné déjà le Grand Prix du Canada? Tu veux le gagner encore ou?
Moi, pour l'instant, je joue avec l'idée beaucoup de peut-être le refaire, le Grand Prix du Canada, juste parce que j'avais pas repensé. Je pensais que j'avais fait ce que j'avais à faire, mais drôlement, j'ai vraiment eu un. Puis ça, je dis pas ça pour me faire paraître meilleur qu'un autre ou peu importe, mais les gens qui je parle, qui me connaissent du milieu de la course, me disent: Ah, ben, t'as fait ça le Grand Prix de Montréal? Comme si c'était comme une. une série, tu sais, c'est comme j'avais un contrat avec le Grand Prix de Montréal pour venir représenter le Québec. Puis la prochaine fois, je suis comme, ben, j'ai pas de plan, mais je veux dire, s'il y a de quoi qui arrive, il y a quoi qui arrive, là. Puis le plus j'y repense, le plus que ça m'aiderait justement aller exacerber où est-ce que, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma carrière. Surtout, personnellement, j'aimerais faire du sport d'endurance, du sport auto d'endurance en IMSA ou en WEC, le championnat d'endurance mondial. Ça, c'est vraiment mon créneau que j'aimerais développer. Puis je sais que je serais bon avec un manufacturier et rester avec un manufacturier et faire rayonner les partenaires qui m'ont aidé à me rendre là depuis le début.
Ouais.
Fait, sans avoir, est-ce qu'eux ont besoin de faire un chèque? Moi, je peux juste les ajouter, faire de la promo pour eux, puis c'est comme s'ils me supportaient encore financièrement, mais ils le font pas. Fait que moi, ça serait vraiment mon but ultime, mais le Grand Prix, mettons, faire le Grand Prix peut-être régulièrement, jusqu'à temps que j'en ai plus besoin, comme cette année, peut-être, ça m'aiderait peut-être à mousser un petit peu mon autre programme, qui serait avec mon équipe de management, M. Rémi Lantin, qui est le directeur d'équipe de Remstar Racing avec Fast MD. Présentement, ils sont à Saint-Pétersbourg avec Jagger Jones, un ancien pilote de Indy Lights, qui est maintenant avec eux pour ce week-end-ci, en tout cas. Il y aurait une possibilité pour moi de finir la saison avec eux avec un certain budget. Donc, moi, j'aimerais ça peut-être mousser mon Grand Prix de Montréal et après ça, aider avec tous ceux qui m'ont aidé pour le Grand Prix, pourraient peut-être m'aider pour finir la saison en LMP3 avec Fast MD, avec Remstar. Et faire au moins les 4 dernières épreuves. Et après ça, faire des bons résultats à IMSA. Vraiment, tous les paris sont permis, là. Je veux dire, ce qui peut arriver après ça, ça peut être très aléatoire et très bénéfique pour n'importe qui m'a déjà aidé et qui veut m'aider. Donc, moi, c'est vraiment ce que je veux faire.
Ta façon de redonner. Dans le fond, tu continues, tu joins l'utile à l'agréable. Dans le fond, tu continues sur ta carrière, tu bâtis un élan, puis tu es capable de redonner à ceux qui t'ont épaulé depuis le début. Tu es aussi un fan de Formule 1. Comme j'ai dit, on a déjà discuté ensemble, puis tu nous as parlé un peu au début que tu en as aussi qui t'inspirent. T'as-tu un pilote présentement là, sur la grille, ou même tu peux en nommer un aussi qui est peut-être plus sur la grille, mais c'est qui t'inspire le plus dans ta carrière présentement, là, mettons?
Présentement, mettons, j'en nommerais un qui n'est pas sur la grille, ce serait Jean Villeneuve, évidemment. Jean Villeneuve, c'est l'épitome de la résilience québécoise et du talent pur. Moi, j'essaie de modeler mon éthique de travail puis mon éthique de persévérance à travers ce que lui a fait pour se rendre là, ce qui est même à l'époque, qui est encore incroyable. Fait que ça, c'est sûr que c'est mon choix numéro un pour pilote qui est plus sur la grille. Dans les pilotes qui sont sur la grille, égal avec Fernando Alonso et Charles Leclerc. C'est vraiment eux qui, je crois, à qui je peux relater le plus dans la manière qu'ils conduisent, la manière qu'ils gèrent leur course, la manière qu'ils gèrent leur carrière, la manière qu'ils se comportent. J'ai plus d'atomes crochus avec ces deux pilotes-là que tous les autres, probablement réunis. Donc, Fernando, depuis que je suis petit, quand je regardais la F1, j'étais un fan de Schumacher, même si jamais aussi Jean Villeneuve. Un n'était pas sans l'autre. Puis là, j'ai vu Fernando qui battait Schumacher. Hey, c'est qui, lui? Je l'adore. Fait que depuis que je suis petit, ça a toujours été un go-to. Et Charles Leclerc, je trouve vraiment qu'il a un parcours phénoménal que j'adore suivre. Je le suivais depuis ses jours en F2, en fait. Ouais, à quel point il était bon. C'est probablement lui qui a le meilleur surnom de pilote sur la grille, là. Il Predestinato. Vraiment, c'est vraiment symbolique là, à travers la manière qu'il a eu sa carrière, la manière qu'il a eu sa drive. T'sais, il a fallu que Kubica arrive, ce qui est arrivé en rallye. Il a fallu que Bianchi meure au Grand Prix du Japon pour que lui ait cette opportunité-là à cet âge-là, comme si c'était le destin. Puis, il a gagné à Monza. Maintenant, c'est une légende, peu importe ce qu'il fait. Et j'espérais des plus grandes choses pour lui, mais c'est une belle histoire que j'aimerais voir la fin et supporter jusqu'à temps que ça devienne bien pour lui.
Puis par-dessus tout, en plus. Charles Leclerc, pourquoi c'est un bon exemple, c'est un bon gars. En plus.
Exact.
C'est ça, c'est le
Exact.
bon. C'est parce qu'on a souvent l'attitude, un pilote, même des fois, moi, je lui reproche dans les podcasts que ça lui manque un peu de chien, là. Tu sais, ça prend un peu de chien. Puis je pense que ta combinaison de Fernando Alonso, lui, il l'a, là, ce côté-là. Puis tu as le côté Charles Leclerc aussi, qui est bon gars. Mais en piste, Charles est capable aussi de
Ouais.
monter. Puis j'aimerais ça qu'il en monte encore un peu plus, de
Ouais.
vouloir saisir ces opportunités-là. Tout ça. Mais je pense que. Ton duo, là, si tu avais à prendre deux pilotes et en faire un avec, là, j'aime beaucoup ta combinaison de Fernando
Ouais.
Alonso et Charles Leclerc.
C'est vraiment un peu de deux extrêmes,
Ouais.
le vieux ratoureux et le jeune un peu trop green
Passif ou un peu trop fin, ouais. C'est un peu trop bon
trop
garçon.
trop naïf, ouais, exact,
Ouais.
trop. Oui, il est certainement beau gosse, mais ça fait partie des critères, là, mais
Ah ben ça aide pour les commanditaires aussi.
ah, certain, certain.
C'est ça.
C'est sûr que
Mais.
c'est le pilote Ferrari par excellence, on dirait qu'ils l'ont sorti d'un moule, ça qui est drôle.
Ah oui, Charles. Puis
Là.
Charles Leclerc aussi, tu l'as mentionné, puis on a fait une capsule justement il y a, la saison dernière là-dessus. J'ai eu la chance de raconter un peu son histoire à Charles Leclerc. Puis comme tu dis, avec le décès de Jules Bianchi, c'est un gars aussi que même s'il vient de Monaco, on a souvent l'idée de dire ah, il doit être riche, il y a de l'argent. Non, ils ont manqué énormément d'argent au cours de sa carrière. Donc, il a eu besoin de trouver des commanditaires, ce qui est quand même assez rare pour des pilotes de Formule 1. Oui, ils ont toujours eu besoin de soutien, mais d'avoir un peu, comme tu utilisais le mot tantôt, là, je vais le reprendre, mendier là, pour pouvoir progresser, bien, Charles Leclerc, il a eu besoin de ça. Si ce n'était pas de Jules Bianchi qui, dans le fond, qui l'a référé à son manager, qui était le fils à Jean Todt, là, qui est le, ouais, c'est le fils à Jean Todt, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est venu trouver. Ben, écoute, on parle un peu de Formule 1, tu m'as lancé là-dessus, puis je suis content parce que ça va pour conclure notre entrevue aujourd'hui. Puis je vais pouvoir annoncer aux gens que tu as accepté de devenir un collaborateur du F1 Podcast. Puis ça me fait le plus grand des plaisirs d'avoir cette vision-là, qu'on peut ajouter la vision d'un pilote, d'un gars de chez nous. Donc, je voulais prendre le temps de te remercier.
Ben, ça, moi, c'est moi qui dois te remercier. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir discuter, avoir des discussions de haut niveau, vraiment avec quelqu'un de calibre et de pouvoir avancer, surtout la connaissance au Québec, certainement, là, et dans la francophonie mondiale, sur la F1, ma passion, notre passion, et de pouvoir progresser le tout et en même temps s'entraider là-dedans. Donc, vraiment, ça me fait un grand plaisir, moi aussi. J'espère à toi aussi.
Parfait, oui, super. Puis en plus, je suis persuadé qu'on va avoir énormément de plaisir ensemble. Puis en plus, les gens qui vont pouvoir gagner à te découvrir aussi, puis à savoir que les prochaines fois, c'est peut-être ta dernière opportunité que tu vas avoir à Montréal, justement, de faire le Grand Prix du Canada, mais aussi te suivre sur la scène internationale, de voir qu'il y a encore des talents québécois qui existent. On a perdu, là, Players dans les. Il y a de ça plusieurs dizaines d'années déjà, ou peut-être moins que ça, mais on a perdu Players qui chapeautait beaucoup les pilotes du Québec. On apprenait à les connaître sous la bannière Players. Donc, si F1 Podcast peut donner une plateforme à un pilote québécois de s'exprimer puis de se faire connaître aux jeunes, pour moi, c'est mission accomplie. Puis en plus, tu connais la Formule 1, ça va être agréable. Puis tu vas apporter le point de vue. Tu sais, on a Frédéric Vallée aussi qui est collaborateur ici, qui est aérodynamicien chez Red Bull Racing. Puis d'avoir un gars qui a la vision du pilote, mais je pense que ça commence à faire une équipe solide puis une équipe le fun à écouter pour les gens.
Certainement, certainement. Là, t'as en arrière de la voiture et t'as dans la voiture. Donc, moi, je pense que t'es très bien entouré. Puis, t'es bien entouré pour avoir une recette gagnante pour avoir probablement la meilleure combinaison d'un podcast de quelqu'un de bien informé là, sur la course automobile, surtout sur la F1. Moi, j'ai bien hâte de voir la suite et à quel point on peut prédire des choses qui vont avoir raison juste par la combinaison d'expertise ou peu importe ce qui arrive, mais j'ai bien hâte de voir.
C'est le but du podcast, c'est surtout faire tomber les zones grises, rendre le sport agréable pour tout le monde, parce que quand il y a trop de zones grises, ça devient complexe. Les gens, des fois, ils décrochent un peu, on perd un peu c'est quoi le sens du sport. Donc, vraiment de faire tomber ça avec l'expertise de Fred, avec ton expertise à toi, qu'on est capable de mettre ça tout ça ensemble, je pense que ça va vraiment être plaisant pour les auditeurs. Puis c'est ça le but, c'est que les gens aiment écouter ça, puis que les gens apprennent, puis surtout aient du plaisir lors des week-ends de course, de savoir exactement c'est quoi qu'on regarde. Puis, c'est quoi l'envergure d'un Grand Prix de Formule 1, d'un week-end de Grand Prix au complet? Donc, il y a plusieurs couches à ça, il y a plusieurs couches reliées à ça. Donc, encore une fois, ben, je conclue en te remerciant une autre fois. Félicitations pour ta carrière aussi. Ça a peut-être paru court aujourd'hui parce que tu avais beaucoup d'informations à nous donner, puis c'est super intéressant, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être de retour dans d'autres épisodes, donc on va pouvoir jaser de ta carrière en même temps qu'on va jaser de ce qui se passe dans le championnat 2024.
Ah, certainement. Grand merci à toi, là. Passe une excellente fin de journée.
C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 15 mars. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge des séances d'essai libre du Grand Prix d'Australie. Et d'ici là, bon week-end!